Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 25 décembre. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Clément.
Bonjour.
Ah là là, c'est quoi ce bonjour?
Je voulais être dans l'énergie de Grégor. Bonjour Vanessa, bonjour Grégor. Mais c'est... Écoutez, c'est les retrouvailles, ça nous fait plaisir. On a passé de superbes fêtes. Enfin, en tout cas, je parle pour vous, mais si ça se trouve pas du tout, moi, en tout cas, j'ai passé...
Un bon Noël.
Un bon Noël, ça s'est très bien passé. Et puis, attention, on va parler de films aujourd'hui qui sont sortis le 25 décembre. Il n'y a pas un seul film de Noël, quand même. C'est extraordinaire.
Ben non, il n'y a pas de film de Noël. On se demande pourquoi, mais bon, ce n'était pas... C'était pas les films les plus attendus le 25 décembre. Hein. Je crois qu'il y avait un certain Nosferatu.
Nosferatu, oui, que personne connaît.
Nosferatu est une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est épris avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage.
Eh bien, on remet les choses dans le contexte. Nosferatu, qui est un remake d'un film de 1922. Le remake d'un remake, c'est une première version 1922 de Murnau, ensuite une autre dans les années 70, et puis celle-ci qui, en fait, l'histoire de Dracula, mais je crois que pour une histoire de droit d'auteur ou je ne sais quoi à l'époque, ils ont créé un dérivé de l'histoire de Dracula, sauf que là, c'est pas Dracula, c'est le comte Orlok. Et c'était assez intéressant de voir Nosferatu en 2024, parce que déjà, encore une fois, comme Horizon de Kevin Costner, peut-être que je vous en parlerai dans le top 10, c'est des sujets de cinéma qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire que là, c'est le cinéma de vampire. Et le cinéma de vampire, en 2024, c'est quand même assez rare, mais la particularité, c'est que déjà, il y a Lily Rose Depp dans le rôle principal, le comte Orlok est joué par celui qui a incarné Pennywise, donc Gripsou dans les derniers films Ça, interprété donc par Bill Skarsgård, et c'est réalisé par Robert Eggers. Robert Eggers, qu'on connaît pour avoir une patte graphique très marquée, The Lighthouse, The Witch et dernièrement The Northman. Que des films en eux et il n'a pas fait The Nosferatu. Occasion manquée. Eh bien, on était en droit de se poser la question, est-ce que c'est aussi beau que ses précédents longs-métrages?
Aussi beau, oui.
Aussi beau,
il y a
oui.
Une très, enfin, photographie
aussi beau et aussi bien.
Le côté photographie est magnifique.
Eh ben totalement. C'est ce que je me suis dit, c'est que c'est un émerveillement visuel
oui,
de 2 heures et quelques. Le réalisateur a même déclaré qu'il existe une version longue de 3 heures qui va sortir prochainement.
Oui,
voilà, petit
qui
scoop.
Devrait pas tarder à sortir. Ouais. Ils l'ont annoncé d'ailleurs.
J'ai plutôt hâte de voir ça parce que c'est un film que j'ai envie d'acheter. C'est une qualité, quoi. C'est imprégné dans la rétine, c'est magnifique.
C'est magnifique. La photographie est magnifique. Et les interprétations sont très belles aussi. Hein. Lily Rose Depp en Helen Hunter.
Dans son premier grand rôle, parce qu'elle n'a pas eu des rôles très marquants, mais non. Là, c'est son premier grand rôle. Nicolas Hoult, qu'on avait vu dans Juré numéro 2.
Juré numéro 2, oui.
De Clint Eastwood. Mm-mm. Et aussi, et moi, c'était là où était mon appréhension avant de voir le film. C'est que Bill Skarsgård a un physique atypique, je crois qu'il doit mesurer 2 mètres dans la vraie vie, on le connaît derrière les traits de Gripsou le clown. Donc comment allait-il nous faire croire, en tant que spectateur, à une nouvelle incarnation du mal
conte.
Qui ne soit pas Gripsou, c'est-à-dire qui n'ait pas les traits d'un clown, qui n'ait pas le phrasé du clown, et écoutez, extraordinaire, moi je ne l'ai pas reconnu du tout.
Non.
Moi,
tu le reconnais pas.
C'est impossible de se dire que c'est cet acteur qui est en dessous. Ils lui ont mis un nez très marqué, une grande moustache, une voix différente, des vêtements, une posture, une carrure. Et rien que pour ça, effectivement, on le soulignait, les interprétations sont sublimes.
Willem Dafoe aussi.
Willem Dafoe, mais alors lui, on le présente même plus. J'ai l'impression qu'il fait 4 films par an et à chaque fois, c'est cette qualité. Il choisit bien ses rôles. Il peut être tout autant, il est caméléon. Willem Dafoe, je pense que c'est le plus caméléon de tous. C'est-à-dire qu'on peut le voir effectivement dans un film d'auteur comme Pauvre Créature en début d'année ou Triangle. Comment il s'appelait ce film du réalisateur de Pauvre Créature aussi également, celui qu'on avait vu après. Bref, le film.
Triangle of Sadness.
C'était pas Triangle
non,
of Sadness,
c'était
quoi? Il y a eu un film que. Pardon, vous allez le trouver, les gens, mais c'était le film qui était sorti après Pauvre Créature. Et du même réalisateur, et de Yorgos Lanthimos. Mon Dieu, cette galère. Mais Willem Dafoe est un acteur qui se diversifie énormément, qui va dans des blockbusters à la Spider-Man, comme dans des films d'auteur. Et là, encore une fois, il est exceptionnel. Il a même eu très peur pendant le tournage de Nosferatu, parce qu'il a une séquence dans des tombeaux avec des rats. Et c'était de véritables rats. Il était en panique. Et vraiment, c'est beau. C'est du beau cinéma. Après, est-ce que c'est du bon cinéma en termes de scénario. Là, c'est autre chose.
On l'a revu aussi dans Beetlejuice.
Ce que je disais, 4 films par an, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Mais c'est... Mais voilà, on parlait de bon cinéma. Est-ce que Nosferatu, c'est du bon ? Là, je ne sais pas. Parce qu'au fait, je trouve que c'est une histoire qui aurait pu se résumer en 1h30, très honnêtement. C'est l'étendre sur 2h et quelques, c'était peut-être un peu too much.
Je pense que c'est trop cherché parce que au début, tu es effrayé.
Ouais.
Tu as peur, tu as vraiment cette tension, tu as les poils, tu as froid, tu te dis waouh, c'est vraiment l'ambiance très glauque, et très noire.
Et quel dommage parce
qu'ils sont très emprunt avec les vampires, tu sais l'emprise
bien sûr,
du vampire. Et puis à un moment donné, bah malheureusement, en tout cas pour moi, je suis sortie de ça et il y a des scènes, je me suis trouvée à rire.
Ouais, c'est pas bon signe.
À avoir ce sourire et à me dire mais c'est, fin,
là,
et
c'est
même à me dire à des moments c'est un peu vulgaire, c'est un peu tiré bizarrement et je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'incroyable et peut-être que le fait que ça s'étale en longueur, ça montre des choses, à un moment tu te dis c'est carrément une maquette quoi, c'est pas possible, quand tu vois quelque chose qui avance tu te dis mais c'est spécial et ça te sort du film et c'est ça qui est dommage parce que sinon les interprétations sont sublimes et la photographie aussi.
Il y a des choix de réalisation qui m'ont trop perturbé.
Alors, le montage aussi.
Moi, je suis pas très client des jumpscares, ce genre d'effet qui impressionne la jeunesse. Et c'est normal, c'est quelque chose qui ne me concerne plus trop. Mais le problème de Nosferatu, c'est qu'il y a un jumpscare. Donc, jumpscare, traduction, une espèce d'effet effrayant qui intervient à l'image et qui surprend le spectateur. Il y a un premier jumpscare qui apparaît au bout de 30 secondes de film, les 30 premières secondes. À un moment donné, le vampire apparaît, ça gueule à l'image. Ça m'a tellement surpris et ça a surpris toute la salle, c'était l'effet voulu. Mais le problème, c'est qu'il a balancé ça dès le début du film et j'avais du mal à redescendre de mes émotions et plonger dans l'histoire. Et donc, en fait, du coup, c'était très difficile d'y rentrer. Vraiment une faute de goût, très sincèrement. Je pense que Robert Eggers a eu une faute de goût sur ça. Et l'autre problème que j'ai eu, c'est que je trouvais que c'était brillant de ne pas nous montrer le visage du Compteur Locke durant la promotion du film. Et on sent que dans le film, ils veulent nous le cacher. Dès que le personnage de Nicolas Hoult rentre dans cette demeure et qu'il le rencontre...
On le voit que par ombre, en fait.
On voit l'ombre, on voit un peu les mains. Et on se dit, putain, c'est bien fait, ils veulent pas nous le montrer. Et tout d'un coup, on
même
finit...
Même dans le château, enfin, dans la
château,
demeure.
C'est ça.
Et
exactement, tout, mais... exactement, il y a un vrai mystère. Et au fait, au bout d'un moment, on finit par nous le montrer. Et on se dit, mais non, mais vous le montrez trop tôt. Vous avez réussi à créer l'ambiance pour pas nous le dévoiler, mais là, vous nous le dévoilez. Et là, l'effet de peur ne marche plus parce que c'est justement dans la suggestion que ça fonctionne. C'est imaginer le pire et le fait de nous le dévoiler, ça ne fonctionne plus. Et là, ce que tu disais à l'instant, c'est que je trouve le film, au bout d'un moment, il est dans la provocation totale. C'est-à-dire qu'on peut... Comment faire plus sanglant, plus sexuel, plus violent, plus choquant. Et à la fin, ça devient tellement graphique que ça en est ridicule et qu'effectivement, soit on a envie de rire, soit on est écœuré. Et je me souviens que quand ma séance s'est terminée, il y avait des filles qui étaient à côté et les premières phrases que j'ai entendues, c'était dégueulasse. Et en fait, je pense qu'elles ont dit ça pas parce que le film était moche à regarder, parce qu'il est très beau, mais que...
Non, c'est l'ambiance à
c'est
des
l'ambiance,
moments, ouais.
C'est crasseux. C'est crasseux et on parlera pas de la dernière scène du film, mais la dernière scène du film, quand elle arrive...
Je pense que c'est cette scène qu'ils ont dû dire aussi.
On savait qu'elle allait arriver, mais la montrer de cette façon-là, je trouvais ça horrible. Et il y a même une scène...
Ça manque de poésie, en fait.
Ça manque de poésie. Je trouve la nudité dans ce film pas belle du tout.
Vulgaire.
La scène où il est... où Nicolas Hoult veut essayer de tuer le Compteur Locke la première fois quand il ouvre sa tombe et qu'il se redresse et qu'on voit, en fait, on voit son sexe hein, en gros plan. Je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça ? En fait, ça n'a aucun intérêt à part créer une polémique ou...
Oui, puis ça te sort complètement du film, quoi.
Mais en fait, en plus, c'est marrant parce que je pense qu'on fonctionne un petit peu tous comme ça quand on regarde un film au cinéma ou quand on découvre un film. Il y a toujours une double lecture dans notre tête. Il y a nous qui découvrons le film et il y a cette petite question de à qui je vais le montrer dans mon entourage.
Oui, c'est vrai.
Et Nosferatu, c'est un film, au fur et à mesure que ça avançait, je me disais, ah tiens, ça, je ne montrerai pas à ma compagne. Ah, ça, pas à mes parents. Ah, ça. Et à la fin, je sors de là et je me dis, bah, en fait, je vais le partager avec personne, ce film, parce que je ne peux pas le conseiller, malheureusement. Je sais qu'on est souvent très dithyrambique quand on parle de cinéma à la radio, mais Nosferatu, c'est un très beau film, mais public averti, parce que
très averti.
Très averti. Je trouve que même le moins de 12 ans,
Je verrais un moins de 16.
Moins de 16,
franchement,
c'est pas très honnête.
C'est vrai que là, c'est un peu se moquer. Il y a des films qui ont été moins de 16 et franchement, ça valait du moins de 12.
Ouais.
Et là, il y a des scènes, mais vraiment, et puis ils vont loin, quoi.
Et puis l'histoire...
Ils vont même très, très loin.
Je connaissais pas l'histoire originale, mais en fait, je trouve que le sujet ne se prête pas du tout à l'époque parce que globalement, c'est quoi l'histoire de Nosferatu, en tout cas sur le dernier acte, c'est Nosferatu qui dit à Lily Rose Depp couche avec moi, sinon je bute tout le monde dans ta famille, quoi. Donc en fait, c'est du viol en réalité. Donc du coup, c'est assez particulier. Je trouve le sujet complètement déplacé. Je trouve que c'est dégueulasse pour faire dégueulasse. Moi, je viens voir Nosferatu, je viens voir Dracula, mais je viens pas voir 50 nuances degrés dans le monde des vampires. Donc en fait, je trouve ça bizarre. Je trouve que c'est mal ciblé. C'est très mal ciblé.
Alors après, les avis sont partagés. Je vous propose de les écouter.
Très très beau, très esthétique, un peu trop long. Perso, je trouve 20 minutes de trop, au moins. Pas forcément très original. Après, on savait ce qu'on venait voir, quoi, tout simplement. Après, ultra bien campé, à voir en VO. Parce que trop de décalage entre la voix originale de Warlock et le doublage français. Voilà, sinon, très bien.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Alors, Nicolas.
Alors moi, c'est la première fois que je vois un film d'horreur. Donc, je suis venue parce que voilà, j'avais vu une présentation au quotidien. Donc, j'ai trouvé que c'était bien fait et j'ai bien aimé. Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom ? Sabine.
Ouais, on n'a pas compris grand-chose. C'était un peu déstructuré, mais le film en soi était pas trop mal. Il faisait pas si peur que ça.
Alors moi, pour le coup, visuellement, j'ai adoré. C'était super beau. Par contre, au niveau de l'histoire, c'était... Alors, au début, j'ai juste l'impression que c'était une adaptation 100% du roman Dracula de Bram Stoker. Et bah, en fait, le seul truc qui changeait, c'était que ça se passe en Allemagne au lieu de Londres, quoi. Et à partir de l'entrée de Willem Dafoe, après, ça change, quoi. Mais, ouais, j'ai bien aimé, mais c'était peut-être un peu fort fouilleux, j'ai envie de dire.
Est-ce que je pourrais avoir vos prénoms ?
Oui, Romain.
Clément.
Never shared my secret with any soul.
You have had this spell since childhood. Tell me what you can from the beginning.
It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I had never been so happy.
This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming.
There is a devil in this world, and I have met him.
But you could never please me as he could.
Ah oui, il y en a qui ont aimé, il y en a qui, comme nous, ont été divisés et se posent pas mal de questions sur ce film.
Mais quand même, malgré tout, j'ai très très hâte de voir la version longue, parce que peut-être que la version longue va compléter...
Ah, peut-être, peut-être qu'il manque des choses dans le montage, oui, tout à fait.
En fait, ce que j'aimerais voir dans cette version longue, c'est faire respirer un petit peu la caméra, c'est-à-dire que voir une scène graphique, comme on l'a vu, et juste après, peut-être enchaîner sur 20 minutes de platitude, de dialogue, histoire de redescendre un peu avant une nouvelle scène. Je trouvais qu'à la fin, tout s'enchaînait trop vite, et ça donnait de plus en plus vulgaire, donc...
On avait l'impression qu'il fallait tout finir tout condenser en 20 minutes.
C'est ça, exactement, donc peut-être, une version longue pour laisser le spectateur respirer et peut-être que seul à la maison ça doit faire son effet aussi dans le noir donc curieux de le revoir malgré tout, malgré tous les points négatifs que j'ai soulignés, ça reste quand même une proposition de cinéma osée, intéressante et je vous invite à vous faire évidemment votre avis comme nos chers spectateurs qui viennent de nous donner le leur, voilà.
Le deuxième film dont on va vous parler, c'est Planète B, un film de Aude-Léa Rapin. Je devais voir ce film au Festival international du film de Muret. Il était dans la sélection. La réalisatrice devait venir. On devait avoir normalement une projection presse, tout ça, pour pouvoir préparer ou voir le film en amont. Et malheureusement, elle a eu un empêchement. Elle n'a pas pu venir. Donc, il y a eu des interviews qui se sont calées au moment de la présentation du film. Et donc, je n'avais pas pu le voir. Mais c'est un film qui a obtenu le prix des ailes d'argent du jury adulte. Et c'est vrai que ça me donnait très 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 envie de le découvrir. C'était un film que je voulais absolument voir. Pourquoi ? Parce que dans sa distribution, il y a Suella Yacoub. Et j'aime beaucoup cette actrice. Je trouve qu'elle est montée au fur et à mesure en 2024. Elle a fait de très beaux films, de très belles interprétations. Et c'est vrai que là, je l'attendais avec ce film. Et je voulais voir aussi, puisque j'étais vraiment férue de la série Highland. Et ce coup de prison virtuelle qui était montré dans Planète B me donnait tout à fait envie. France, 2039. Une nuit, des activistes traqués par l'État disparaissent sans laisser aucune trace. Julie Bombart se trouve parmi eux. À son réveil, elle se découvre enfermée dans un monde totalement inconnu. Planète B. Planète B, c'est une prison virtuelle. Ces activistes sont envoyés là. Ils se retrouvent dans un monde, c'est paradisiaque. Un genre d'hôtel en flanc de falaise et c'est majestueux, avec la mer tout autour, ça fait une île, et c'est vrai que ça me ramenait dans High Island. Et c'est ce coup de dire que c'est une prison virtuelle, ce coup de, avec cette couleur bleue qui est d'un côté très espoir d'un côté, et tout de suite on dérive petit à petit dans un bleu foncé, plus dans un violet, où là on se dit, ils sont perdus, comment on va les récupérer. Et puis c'est aussi ce côté de se dire, c'est une prison virtuelle et le but de ceux qui les ont mis dedans, c'est de démanteler une cellule terroriste. Et pour eux, c'est vraiment une cellule terroriste des activistes. Et pour avoir ces informations, ils vont plonger ces personnes la nuit dans un monde cauchemardesque et les forcer en leur disant, voilà, si vous nous donnez des informations, vous allez pouvoir sortir de là. Et du coup, petit à petit, ils vont avoir plein de choses et ça va être des délations, des accusations qui vont se faire, d'autres qui veulent obtenir des choses, puisque Julia Bombart connaît énormément de monde et petit à petit, on va essayer. Il y a un jeune avec elle qui est vraiment très très bon, c'est un petit bleu qui commence, qui est activiste, qu'elle a pris sous son aile et qui se retrouve dans cette prison, c'est Eloi, qui est joué par Paul Beaurepaire, et franchement il est très fort, parce que lui il se sent pas concerné, il se dit je suis pas au bon endroit, la prison me convient pas, et petit à petit lui il va voir ce qui lui est arrivé dans la vraie vie. Et il se retrouve avec des images atroces. Il va même se graver au couteau quelque chose sur son corps. Enfin, c'est vraiment très très fort. Et il va même pousser Julia. Voilà, il va lui dire « Donne-moi un nom, dis-moi quelque chose », parce qu'il est au désespoir et donc il va... Et elle, elle va tenir, enfin, elle va essayer de tenir bon tout le long. Et puis, il y a d'autres personnages tout autour. Il y a Indyahir qui joue le rôle de Victoire, qui elle aussi fait partie des activistes. Ils se retrouvent tous ensemble avec un hacker aussi qui est là. Qui est Mehdi, qui est joué par Amin Hamidou, et puis Gudan, qui est joué par Jonathan Cousinet. Ils ont tous fait quelque chose qu'il ne fallait pas pour se retrouver ici. Et la nuit, il leur arrive des choses vraiment très dures, mais c'est, tout est dans la tête. Même si eux, ils voient des images et que nous, on en voit quelques-uns et d'autres sont imagés, c'est vraiment tout dans leur tête. Et ils souffrent énormément psychologiquement. Et même si à des moments où il peut arriver des choses, on va les faire souffrir jusqu'au bout, mais ils peuvent souffrir tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas mourir. Ils rebootent en fait. Tous les jours, hop, le jour se lève, il y a le paradis, on voit les choses magnifiques, et on voit se dégrader la situation sur les personnes. Et le personnage de Nour, qui est joué par Souheila Yacoub, c'est une femme de ménage, c'est une femme qui migrante, qui s'est retrouvée, qui a un visa, qui va se périmer. Donc du coup, il faut qu'elle trouve pour que le QR code, parce qu'ils ont tous un QR code avec une petite lentille, un QR code qui montre combien de temps il leur reste. Et du coup, elle doit trouver pour ce QR code et elle va voir Eliane Umrir, qui joue le rôle d'Hermès, et voilà, elle va lui demander des choses, tout ça, et ça va pas se faire, et donc elle va voler un casque qui va l'emmener dans cette prison virtuelle, et ça va être la bouée de sauvetage de Julia Bombart, qui est jouée incroyablement par Adèle Exarchopoulos. En fait, ce duo fonctionne du feu de Dieu, Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub. Vous allez voir qu'il va y avoir une fusion complète des personnages et ça va être très très fort. Ça va être vraiment de se dire, en fait, oui, Nour, c'est la bouée de sauvetage de Julia Bombart, mais Julia Bombart, c'est celle de Nour qui va lui permettre de se révéler.
C'est un film que je n'ai pas vu, puisque c'est les films qui sortent le 25 décembre, il fallait faire un choix. C'est typiquement le genre de phrase que je pourrais dire si tu places le film dans le top 10 de fin d'année. Je le répéterai très certainement à ce moment-là. Je pense même que tu le mettras dans ton top 10, vu comment t'en parles, ou pas.
Qui sait, verra.
On verra bien. Mais ça, c'est chouette de voir des films de science-fiction. Et c'est chouette aussi de voir cette comédienne qui a...
Science-fiction française et avec des rôles féminins hyper importants
bien
dans
sûr.
Les premiers rôles. Ce qui ne se fait pas beaucoup
bien sûr.
Dans les films de science-fiction.
Et cette comédienne qui a joué dans Dune Partie 2, qui est quand même un mastodonte de la science-fiction de ces dernières années et qui aurait pu peut-être emprunter un chemin hollywoodien et qui reste quand même ouverte à des propositions de films d'auteur à budget plus petit
en France. C'est un petit budget, mais franchement, le film n'en démérite pas et on voit que l'équipe s'est donnée à fond.
Bien sûr. Ben écoute, moi je suis convaincu, je vais le voir s'il reste à l'affiche. Le problème c'est qu'il a une maigre distribution, donc il faut essayer de trouver des salles qui le diffusent et si c'est pas le cas, ben tant pis, ça sera en location à la maison quand il sera disponible.
Tu te rappelles de rien ? Il y avait des drones. Il y a des Cérès qui sont arrivés.
Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste.
Personne va dénoncer personne.
C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous.
Were you a journalist in Baghdad?
They're not giving anyone papers anymore.
You are in the shit, young lady.
Attention!
I stole a VR headset from the military base.
5,000.
Take this and get out of here. This is not a headset. It's a bomb. This thing has the Army logo.
Et qui? Tu viens d'arriver?
Are we in a game? Everyone outside believes you disappeared. They're looking for you.
get you out of here.
Ici, vous ne pouvez pas fuir.
C'était Chaud Devant Ciné, les sorties du 25 décembre. Merci beaucoup Clément.
Merci Vanessa, hâte de te retrouver pour le top 10 de fin d'année.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.